Vous écoutez, on lit pour vous.
Des panneaux solaires plus efficaces grâce aux protéines d'un virus. Un texte de Pauline Gravel, paru le 18 décembre 2025 dans Le Devoir. En mélangeant des protéines d'un virus commun du tabac et des nanoparticules d'or dans de l'eau à la température ambiante, des chercheurs de l'Université McGill ont obtenu des feuilles ultra fines qui pourrait accroître substantiellement la capacité d'absorption de la lumière par les panneaux solaires, et ce, à bas coût et sans endommager l'environnement. Les nanoparticules d'or ne parviennent à absorber efficacement la lumière que lorsqu'elles sont disposées à une distance bien définie les unes des autres. Et pour obtenir une telle disposition, on avait besoin d'un équipement sophistiqué et coûteux, ainsi que de produits chimiques puissants. Cela était aussi très coûteux en temps. Les substances chimiques utilisées étaient non seulement dangereuses pour les humains, mais aussi pour l'environnement lorsqu'on s'en débarrassait, souligne Alexander Hall Figali, qui a participé à la mise au point de cette nouvelle façon simple et durable de fabriquer un nanomatériau aux propriétés optiques exceptionnelles. Pour ce faire, l'équipe d'Amy Bloom du département de chimie de l'Université McGill, a fait appel à la protéine de l'enveloppe du virus de la mosaïque du tabac. À cette protéine, qui a la forme d'un anneau, on a greffé des chaînes d'histidine, un acide aminé, qui crée de petits crochets en périphérie de la protéine. Comme un velcro, ces petits crochets permettent aux protéines de s'attacher les unes aux autres, d'accrocher les nanoparticules d'or et de former ainsi une feuille sur laquelle les nanoparticules sont réparties à égale distance les unes des autres. Dans un tel arrangement, l'or agit comme un résonateur. Quand une nanoparticule d'or capte un signal lumineux, celle-ci se met à vibrer, ou plutôt, ses électrons se mettent à vibrer. Et comme elle se trouve aux côtés d'autres nanoparticules dont les électrons vibrent également, elles deviennent une seule entité qui vibre. Au lieu d'avoir 1000 nanoparticules qui vibrent séparément, tout l'ensemble vibre d'un seul bloc. C'est ainsi qu'on augmente la quantité de lumière qui est absorbée et qu'on peut ensuite diriger vers un dispositif comme un panneau solaire, dont le rendement sera du coup accru, explique M. Hall Figali, qui est le second auteur de l'article publié dans la revue scientifique Small, décrivant cette découverte. La protéine qui permet cet agencement rêvé appartient au virus de la mosaïque du tabac, Tobamovirus tabaci. Les chercheurs n'extraient pas la protéine directement du virus, mais la font plutôt synthétiser, telle qu'ils la désirent, chaîne d'histidine incluse, par des bactéries en laboratoire. Ils réunissent ensuite ces protéines et les nanoparticules d'or dans un contenant rempli d'eau à la température ambiante. Ces deux composants s'organisent alors spontanément entre eux. Les protéines s'assemblent entre elles pour former une feuille sur laquelle s'attachent les nanoparticules d'or à égale distance les unes des autres. Aucune chaleur, aucun catalyseur ne sont requis pour effectuer ce mélange. Stable et solide. L'assemblage se fait par un simple phénomène physique grâce aux forces de Van der Waals, qui se manifestent sous forme d'interactions faibles entre les chaînes d'histidine. Même si ce ne sont que des interactions faibles qui retiennent les protéines ensemble, l'assemblage est très solide. Il est très difficile de déchirer la feuille une fois que les protéines sont assemblées, souligne M. Hall Figali. De plus, la protéine elle-même est très stable. Elle ne change pas de forme quand on la sort du frigo. Elle peut résister aux intempéries extérieures. Mais avant de trouver les conditions optimales de température et d'acidité de l'eau, ainsi que les bonnes proportions de protéines et de nanoparticules à réunir pour obtenir des feuilles ayant les propriétés désirées, les chercheurs ont testé des centaines de recettes différentes. Ils ont finalement réussi à déterminer les conditions permettant de créer très facilement et en un rien de temps des feuilles de 5 à 10 micromètres dont les protéines font 18 nanomètres. 5 micromètres, c'est énorme comme taille pour un nano scientifique. Il serait extrêmement difficile de faire des feuilles plus grandes, fait remarquer le chercheur qui termine son doctorat. Il ne reste plus qu'à déposer plusieurs de ces microfeuilles sur le panneau solaire pour accroître substantiellement son efficacité à emmagasiner l'énergie lumineuse. Il n'est pas nécessaire de couvrir le panneau en entier. Un peu de ces feuilles suffisent, précise M. Al-Figali. Dans certaines des conditions testées, les chercheurs ont par ailleurs constaté que leurs feuilles ultra-fines s'enroulaient sur elles-mêmes pour former des tubes de taille nanométrique. Ils imaginent déjà que ces nanotubes pourraient notamment être utilisés comme câbles à fibre optique nanométrique. Une autre application intéressante sur laquelle ils travaillent actuellement. Mais avant d'arriver à la commercialisation de cet extraordinaire nanomatériau, il faudra que le concept fondamental que nous avons mis au point fasse l'objet d'une phase de recherche et de développement qui devra être prise en charge par des ingénieurs. Et cela nécessitera de gros investissements, prévient le chercheur. C'était des panneaux solaires plus efficaces grâce aux protéines d'un virus. Un texte de Pauline Gravel, paru le 18 décembre 2025 dans Le Devoir.
Une oreille sur deux, le coût du silence. Une lettre publiée sur le site de TVA Nouvelles. Dans un Québec qui vieillit, un enjeu de santé publique silencieux, mais bien réel, prend rapidement place, la perte auditive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un individu sur quatre en souffrira d'ici 2050. Déjà, près de 10 % de la population générale et 30 % des adultes de plus de 60 ans sont atteints. Chaque jour, des milliers de personnes vivent avec une perte auditive, mais toutes ne sont pas égales devant l'accès aux soins. Le programme actuel d'aide auditive de la RAMQ exclut une partie importante de la population, laissant de nombreux Québécois sans la prise en charge dont ils auraient besoin pour maintenir leur santé, leur autonomie et leurs liens sociaux. Pour une réforme au bénéfice de la santé auditive collective, lourde conséquence. Cette iniquité touche principalement les personnes retraitées, les personnes sans emploi et celles inscrites à un programme d'études non reconnu par le ministère. Pour ces groupes, la RAMQ ne rembourse qu'une prothèse sur deux en cas de surdité bilatérale. Et si la personne est malentendante d'une seule oreille, aucune prothèse n'est couverte. Seuls les enfants et les étudiants inscrits à un programme reconnu peuvent obtenir un remboursement pour un appareil en cas de surdité unilatérale. Les conséquences sont lourdes. Les personnes malentendantes renoncent à s'équiper ou retardent leur appareillage avec des effets réels sur leur qualité de vie, leur santé et leur sécurité. Lorsqu'elle n'est pas corrigée adéquatement, la perte auditive, même à une seule oreille, peut accentuer les risques de détérioration cognitive, d'anxiété, d'isolement social ou de chute. Au fil du temps, elle prive les personnes concernées de repères essentiels, complique leurs échanges quotidiens et peut, trop souvent, compromettre leur autonomie. La majorité des pertes auditives touchent les deux oreilles. Pourtant, plusieurs personnes vulnérables ne reçoivent qu'une compensation pour une seule prothèse. Concrètement, cela signifie qu'un jeune adulte vivant avec une trisomie 21 inscrit dans un programme d'adaptation scolaire qui ne mène pas à un diplôme officiel n'y a pas droit. Toutefois, si cette personne a obtenu un appareillage auditif avant l'âge de 19 ans, elle bénéficiera d'un droit acquis qui lui permettra d'avoir des appareils auditifs couverts pour les deux oreilles toute sa vie. Un autre exemple, une jeune femme aux prises avec une maladie, momentanément retirée du marché du travail ou bénéficiant de l'aide sociale, se voit, elle aussi, exclue de cette couverture essentielle. Même une personne qui approche la retraite doit parfois s'appareiller en urgence avant de quitter son emploi, elle perd son admissibilité une fois retraitée. Obstacle. En limitant la couverture, on laisse entendre qu'entendre à moitié devrait suffire. Pourtant, les conséquences d'une perte auditive sont beaucoup plus vastes qu'on ne le croit. Elles touchent non seulement la communication, mais aussi la participation au marché du travail. Les personnes malentendantes rencontrent davantage d'obstacles pour garder un emploi ou réintégrer la vie professionnelle, ce qui a des effets directs sur leur autonomie financière et leur qualité de vie. Les impacts sur la santé et l'ensemble du réseau sont tout aussi importants. La perte auditive est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque modifiable de démence et une atteinte plus sévère augmente clairement ce risque. Elle est aussi liée à une hausse des chutes, chez les aînés particulièrement, alors qu'un appareillage adapté peut contribuer à réduire ces incidents et d'améliorer considérablement le quotidien. L'appareillage auditif devient ainsi un véritable levier. Il agit sur des dimensions souvent sous-estimées et contribue à prévenir des complications lourdes, tant sociales que cliniques, tout en réduisant la pression sur le système de santé. C'est précisément là que la situation actuelle pose problème. En limitant la compensation, on se retrouve avec une mesure qui crée non seulement une inégalité d'accès aux soins, mais qui en réduit aussi l'efficacité. Et cela vient contredire l'objectif même du programme d'aide auditive du Québec. Soutenir la santé auditive, faciliter la communication et favoriser la participation sociale des personnes atteintes. Pour que le système réponde réellement à la réalité clinique et protège la santé auditive de tous, le gouvernement du Québec se doit d'élargir la couverture de la RAMQ afin de garantir un accès réel à une correction auditive. Autrement dit, chaque oreille présentant une perte auditive doit pouvoir être appareillée. Cette bonification du programme d'aide auditive permettrait enfin de compenser l'achat, la réparation et le remplacement d'une prothèse pour chaque oreille nécessitant une correction, réduisant ainsi les conséquences néfastes et permanente d'une surdité non traitée, qu'elle soit physique, sociale ou économique. Parce que chaque mot, chaque voix mérite d'être entendu. La santé auditive n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Son co-signataire de la lettre, Claudine Brassard, directrice générale de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Roberval. Marie-Philippe Rodrigue, présidente, et Marie-Ève Beaulieu, vice-présidente de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes. David Gélina, président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Paul-André Galland, président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec. Claire Moussel, directrice générale, Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. Lucie Nau, directrice générale de Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes. Yves Bouchard, président de la FADOC. Nathalie Mercier, directrice générale de la Société Alzheimer au Richelieu. Paul-René Roy, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. C'était « Une oreille sur deux, le coût du silence ». Une lettre publiée sur le site de TVA Nouvelles.
Plus de 2000 infirmières praticiennes spécialisées désormais au Québec, un texte de Jean-François Nadeau paru dans Le Devoir. Le Québec a atteint le jalon de plus de 2000 infirmières praticiennes spécialisées IPS en droit d'exercer. Plusieurs de ces professionnels ne sont toutefois pas encore utilisés à leur plein potentiel, estime Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, OIIQ. À la suite de l'examen du 3 novembre 2025, 155 nouvelles IPS ont obtenu leur certificat de spécialiste, portant leur nombre à 2057 inscrites au tableau de l'OIIQ. Mais on a encore des croûtes à manger, dit Luc Mathieu en rappelant que l'Ontario en compte actuellement plus de 5800. Les IPS travaillent dans 5 spécialités, soit les soins de première ligne, la santé mentale, la néonatalogie, les soins pédiatriques et les soins aux adultes. Elles peuvent entre autres diagnostiquer des maladies, prescrire des traitements, assurer des suivis de grossesse. Cette année marque d'ailleurs les 20 ans de la profession au Québec. L'avènement des IPS devait améliorer l'accès aux soins. Mais dans bien des cas, ce potentiel demeure sous-exploité, soutient M. Mathieu. Et ce, surtout en première ligne, c'est-à-dire en CLSC ou en groupe de médecine de famille, GMF. À titre d'exemple, des IPS sont parfois cantonnés au sans-rendez-vous, sans prise en charge de clientèle, explique-t-il. Elles ne peuvent donc pas assurer de continuité dans les soins. L'objectif d'utiliser le plein potentiel des infirmières praticiennes spécialisées n'est pas de remplacer les médecins, nuance Luc Mathieu. Là où ça fonctionne, IPS et médecins travaillent en partenariat. Il arrive même que des médecins consultent des IPS pour certains cas. Nouvelle cible régionale. Au 1er novembre 2025, 1724 IPS étaient en poste dans le réseau public selon Santé Québec. Il y a environ 8 ans, le gouvernement s'était fixé l'objectif d'en avoir 2000 dans le système en 2025. Des 2057 infirmières praticiennes spécialisées inscrites présentement au tableau de l'OIIQ, certaines travaillent hors du réseau et d'autres, récemment diplômées, vont bientôt y faire leur entrée, explique l'Ordre. La Société d'État veut porter le nombre d'IPS dans le réseau à 2764 en 2029. Elle a transmis au réseau de nouvelles cibles régionales, précisant combien de postes d'infirmières praticiennes spécialisées doivent être pourvus pour chaque spécialité. En septembre 2025, Le Devoir a toutefois révélé que ces nouveaux objectifs font en sorte que des IPS fraîchement diplômés de différentes régions peinent à se trouver un emploi. Pour Luc Mathieu, la situation devient particulièrement préoccupante lorsque des professionnels se rendent disponibles pour travailler dans plus d'une région et demeurent pourtant sans poste. Les directrices de soins, qui ont pour rôle de contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés au sein d'un établissement, jugent d'ailleurs à certains endroits que les cibles attribuées à leur territoire sont insuffisantes pour répondre aux besoins réels, souligne-t-il. Jointe par Le Devoir, Santé Québec affirme qu'actuellement, il y a plus de postes prévus que de finissantes. Ils ne sont cependant pas nécessairement dans l'établissement d'origine ou le plus près de chez elle, écrit Marie-Ève Despatie-Gagnon, porte-parole à la Société d'État. Elle ajoute que les postes sont distribués en regard des besoins populationnels mesurés pour l'équité entre les usagers de chacune des régions et en adéquation avec leurs besoins particuliers. Des stages avec les miettes. Le Québec doit continuer à former de nombreux IPS au cours des prochaines années, estime le président de l'OIIQ. Mais encore faut-il que les milieux de stage suivent, souligne Luc Mathieu. Celles qui étudient pour devenir IPS ont parfois du mal à trouver un lieu de stage où se retrouvent avec les miettes, déplore-t-il. Quand tu es en stage dans un GMF, il faut que tu aies accès à des salles pour voir les patients. Et si tu as des suivis ou des notes cliniques à faire, ça prend un vrai espace de travail. De son côté, Santé Québec soutient que plusieurs places de stage sont inoccupées, par exemple en région. Il appartient aux universités d'en répondre et de développer des stages dans ces régions, de solliciter les places de stage inoccupées par d'autres universités, indique Marie-Ève Despatie-Gagnon. C'était « Plus de 2000 infirmières praticiennes spécialisées désormais au Québec », un texte de Jean-François Nadeau paru dans Le Devoir.
Spaghetti, cafetan, compas et yodel, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru dans La Presse. La cuisine italienne. Pour certains, c'est de la bouffe, mais pour d'autres, c'est un art de vivre. Et c'est pour cette raison que la cuisine italienne vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, parmi une quarantaine d'autres traditions du monde entier. Plus qu'une simple assiette de spaghettis, la cuisine italienne est un moyen de se rapprocher de la famille et de la communauté, avec des moments partagés autour de la table, explique l'UNESCO, qui souligne aussi la transmission de ce savoir-faire. C'est la 20e fois que l'Italie est inscrite à la précieuse liste, les précédents intronisés étant l'art du piazzolo napolitain 2017 et la récolte de la truffe 2021. Les Italiens peuvent bien se vanter. Le cafetan marocain. Voilà qui ne devrait pas améliorer les relations déjà tendues entre le Maroc et l'Algérie. Les deux pays revendiquaient l'origine du cafetan, vêtement traditionnel richement décoré, porté lors de fêtes et de rites de passage, comme les mariages et les baptêmes. Mais c'est finalement le Maroc qui a remporté la course. Le site Info 360 soulignant au passage l'échec retentissant de l'Algérie, accusée d'avoir manœuvré pour contrer la candidature marocaine. Les deux pays sont en brouille depuis des années à cause du Sahara occidental, région contrôlée par le Maroc, mais revendiquée par des indépendantistes soutenus par l'Algérie. Diwali, ou la fête des Lumières, en Inde. C'est une des célébrations les plus importantes de l'hindouisme, mais aussi du sikhisme et du jaïnisme. Elle est soulignée par des millions de personnes dans le monde, mais surtout en Inde, où le pays s'illumine de feux d'artifice, de lampes, de bougies et autres pétards pendant 5 jours. symbole du triomphe du bien sur le mal, Diwali ou Dipavali, la fête indienne des Lumières, rejoint à son tour la liste de l'UNESCO. Beau cadeau pour le très nationaliste premier ministre indien, Narendra Modi, qui n'a pas manqué de saluer le choix de cette fête qui constitue l'âme de la civilisation de son pays. Ne pas confondre avec la Diwaniya, espace où les hommes de tous âges se réunissent pour parler et échanger des idées au Koweït, aussi reconnu mercredi par l'UNESCO. Leçon cubain. Benny Moré, Campe Segundo et les autres papis du Buena Vista Social Club peuvent crier victoire. Le son cubain est désormais reconnu par l'UNESCO parce qu'il renforce la transmission orale et la culture populaire. Né à la fin du 19e siècle, ce genre musical dansant n'a pas volé cet honneur puisqu'il a largement influencé la musique latino-américaine du siècle suivant, donnant naissance au mambo et au cha-cha-cha dans les années 1940-1950, puis à la salsa dans les années 1960. Parmi d'autres musiques inscrites mercredi par l'UNESCO se trouvent le High Life ghanéen, le compa haïtien, le yoropo vénézuélien, le sarawia péruvien et le tas-piki malgache. Le yodel. Mise sur pied en 2008, la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO comprend plus de 800 traditions ou pratiques culturelles issues de 155 pays. Un indispensable travail de sauvegarde qui permet de consacrer des traditions parfois vivantes, parfois précaires et menacées de disparition. Dans le passé, l'organisation a notamment reconnu la capoeira brésilienne, 2014, le flamenco espagnol, 2010, la baguette française, 2022, le savon d'Alep et le saké japonais, 2025. La Suisse a réussi jeudi à faire inscrire le yodel, tradition montagnarde et favori de nos parties de bureau du temps des fêtes, à ce précieux inventaire. C'était Spaghetti, caftan, compas et yodel, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru dans la presse.